Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Léa Capuano, Marguerite Caton, Maïder Gérard et Corentin Mansois, réalisée ce matin par Benjamin Hu et à la technique Nasser Moussaoui. Second volet de notre série consacrée à l'Espagne. L'Espagne qui vote ce dimanche pour renouveler son Parlement. Fractures espagnoles, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours en quatre épisodes. Hier, nous avons parlé du nouveau paysage politique espagnol et des enjeux de ces élections. Demain, mercredi, focus sur les droits des femmes et le renouveau des mouvements féministes. Et enfin, jeudi, nous aborderons l'épineuse question de l'unité espagnole, alors que le procès des indépendantistes catalans n'en finit pas de diviser la classe politique. Mais ce matin, on parle de la situation économique et sociale. L'Espagne est-elle vraiment sortie de la crise? C'est notre sujet jusqu'à midi.
L'Espagne a un besoin urgent de réduire son déficit public pour respecter les objectifs définis avec l'Union européenne et pour dynamiser la croissance économique et la création d'emplois.
En matière d'emploi, nous supprimerons de nombreuses allocations, à l'exception des nouveaux contrats aidés et des contrats d'insertion des personnes handicapées.
Nos salaires ont baissé de 20% environ. C'est vrai que tu dois mettre tes projets entre parenthèses. Mais grâce à ça, on a gardé nos emplois.
Je ne perds pas espoir. Il ne faut pas perdre espoir. Mais c'est vrai que certains jours, je me dis, comment vais-je faire? Je ne vois pas d'issue. Je suis comme dans un limbe. Je n'ai pas énormément d'expérience professionnelle dans mon domaine et je n'en ai aucune dans des domaines moins qualifiés.
Est-ce que c'est la fin de la crise alors?
C'est ce qui se dit. Mais est-ce que c'est vrai?
Avec un taux de croissance avoisinant les 3% ces dernières années et près de 2,5% en 2018, l'Espagne s'affiche aujourd'hui comme l'une des économies les plus dynamiques de la zone euro. Des chiffres à faire pâlir d'envie ses voisins et pourtant le pays revient de loin. Il y a plus de 10 ans, en 2008, éclatait la bulle immobilière, révélant les fragilités de l'économie espagnole et plongeant le pays dans une grave crise bancaire et financière. Sous la pression de Bruxelles, le gouvernement entame alors une politique d'austérité et de réduction des dépenses de l'État. Une décennie plus tard, l'Espagne semble retrouver des couleurs. Mais cette croissance est-elle vraiment le signe d'une reprise durable et surtout à quel prix pour la population? Si le chômage a fortement baissé, il reste très important, aux alentours de 15%, et un tiers des emplois créés en 2018 sont à durée déterminée, sans parler de la dégradation des conditions de travail. Ce 15 février, le nouvel exécutif socialiste a proposé un budget en rupture, prévoyant une forte hausse des dépenses publiques, mais le projet de loi n'a pas su trouver de majorité au Parlement. Alors l'Espagne est-elle définitivement sortie de la crise? Quel bilan économique mais aussi social peut-on dresser de ces années d'austérité? Quelle marge de manœuvre pour le prochain gouvernement? Eh bien, deux invités pour répondre à toutes ces questions. Quentin Ravelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de Briques rouges, dette, logement et lutte sociale en Espagne. C'est paru aux éditions Amsterdam en 2017. Et vous êtes aussi l'auteur d'un documentaire, BRICS, sur la crise économique de 2008, et lui était sorti en 2017. Et à vos côtés, à Bruxelles, en duplex de Bruxelles, au Centre de presse internationale, Roland Gillet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous également ce matin. Vous êtes professeur de finance à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Vous avez été expert au sein de différents groupes de réflexion au niveau international, notamment portant sur la crise de la zone euro en Grèce et en Espagne. Et j'en profite pour remercier aussi les équipes à Bruxelles de vous accueillir ce matin. Roland Gillet, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui explique ces chiffres relativement bons de la croissance espagnol, quand je dis relativement, évidemment c'est à l'échelle de l'Europe. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2019, l'Espagne a tourné la page de la crise?
Mais tourner la page, ça c'est peut-être un peu aller vite en besogne, mais par contre, a fait des efforts drastiques, souvent seul, parce que le mécanisme européen a consisté essentiellement, comme d'ailleurs avec les autres pays fragilisés comme la Grèce ou le Portugal, à prêter de l'argent à des taux de plus en plus bas, mais où la solidarité n'est en fait que une manière de permettre à des États qui ne trouvent pas sur le marché des taux d'intérêt qui leur permettent de survivre, voire simplement du crédit, de faire pendant un certain temps ce pont qui permet au pays d'essayer de s'en sortir, mais je répète encore une fois, sans aucune vraie solidarité, puisqu'il s'agit de prêts, avec des intérêts, et des intérêts qui, pour la plupart des pays, sont plus élevés quand ils prêtent à l'Espagne ou quand ils prêtent à la Grèce que ce que eux empruntent comme taux d'emprunt, ce qui veut dire que si tout se passe bien, ces pays auront, au bout du compte, un budget qui est mieux après avoir aidé qu'avant. Donc, vous doutez que ce type de solidarité a ses limites. Donc, ça veut dire, et je reviens à votre question, que l'Espagne a fait beaucoup d'efforts. Elle les a fait seule, à part le mécanisme de l'aider par du prêt, essentiellement pour sauver ses banques et son système bancaire. Et aujourd'hui, elle va un peu mieux, tout en sachant quand on tombe à des niveaux très bas, on remonte évidemment beaucoup plus vite en pourcentage, puisque plus on descend, plus un tout petit peu de remontée donne des pourcentages élevés. Regardez en Grèce également. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Espagne va mieux. Alors l'Espagne va mieux au niveau de son économie, quand on la regarde en général. Mais si vous regardez par exemple les ménages, et on y viendra sans doute après, qui ont eu des problèmes pendant la crise au niveau de leur immobilier, où leur immobilier a été saisi et où, après ça, ils conservaient encore un crédit à rembourser à la banque, parce que le montant de la vente de leur maison était en deçà de ce qu'ils devaient encore à la banque, ceux-là sont encore, je vais dire, laissés pour compte. Et avec des coupes sociales qui ont été faites depuis les soins médicaux jusque dans les services d'aide aux gens qui n'ont pas d'emploi, ces gens-là souffrent encore beaucoup.
Et il y avait un témoignage dans un reportage du journal Ouest France, une femme de ménage, Andrella, qui disait « L'Espagne est sortie de la crise, mais les Espagnols y sont encore ». Est-ce que ça résume bien la situation, Roland Gillet ?
Tout à fait, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on peut regarder, évidemment, et heureusement que l'Espagne va mieux. Et heureusement surtout, on y viendra peut-être aussi tout à l'heure, que l'Espagne était très peu endettée par rapport à son PIB. Les efforts qu'elle a fait seule pour revenir à flot et essayer de redynamiser son économie en évitant quand même l'éclatement social. Souvenez-vous qu'à un moment donné, c'était comme en Grèce, on avait peur d'une crise sociale, d'un soulèvement social, d'un éclatement même du pays, sans parler même des problèmes avec la Catalogne. Donc elle a fait des efforts seule. Je pense d'ailleurs qu'Angela Merkel a été très courageuse à un moment donné lors d'une manifestation à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une manifestation espagnole, au moment où la crise où l'Espagne avait remboursé et n'avait plus d'aide européenne puisqu'elle n'en avait plus besoin, c'est de dire « Je n'aurais pas pensé que vous auriez été si vite pour vous en sortir seul et surtout vous avez fait les efforts à un point tel qu'aujourd'hui, s'il y avait un ministère des Finances un jour au niveau de l'Europe, je confierais au ministre de l'époque, le ministre de l'économie, Luis de Guindos, les responsabilités de gérer de l'argent allemand. Et pour vous dire que ça n'a pas été suivi que de mots, c'est qu'aujourd'hui, Luis de Guindos est le vice-président, avec l'appui des Allemands, de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pour vous dire que la crédibilité des efforts qui ont été faits par les Espagnols, en dehors de leur côté patriotique, montre que ce sont des gens très sérieux et qui ont évidemment fait des efforts colossaux pour en arriver là. Par contre, encore un bon nombre de la population reste sur le côté. Aujourd'hui, chez les jeunes, ça va mieux, mais les taux de chômage ont avoisiné 50% pendant la crise. On est encore autour de 30% maintenant dans certaines régions. Et donc, clairement, oui, l'Espagne souffre encore.
On va y revenir en détail. L'Espagne s'en est sortie seule, nous dit Roland Gillet. Quentin Ravelli, est-ce qu'on peut parler d'une vraie reprise ou c'est plutôt un rattrapage auquel on assiste aujourd'hui? Ces taux de croissance seraient plutôt conjoncturels que vraiment une économie solide. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que non seulement on n'a pas vraiment de sortie de crise, mais même le rattrapage est extrêmement partiel. Si vous voulez, après 2008, en Espagne, ils ont perdu 3,6 millions de postes de travail. Le chômage a flambé en 2012-2013 au-delà de 27%. Donc quand vous arrivez à des seuils aussi importants, même s'il y a quelques postes de travail en plus, de l'emploi qui est créé dans les années qui suivent, vous êtes quand même dans une situation qui est socialement assez dramatique. Et on a encore, à l'heure actuelle, entre 14 et 15% de chômage en Espagne, ce qui est un chiffre très important. Par ailleurs, il faut là où il y a peut-être un malentendu, très souvent, quand on parle de cette sortie de crise, c'est que si vous regardez les indicateurs très généraux, macroéconomiques, la croissance, les exportations, vous pouvez avoir une illusion d'optique qui vise à penser que l'Espagne est sortie de la crise. Mais quand vous regardez les indicateurs sociaux, le nombre de familles qui tombent dans la pauvreté depuis 2008, donc c'est une famille de la classe moyenne sur six, par exemple, Quand vous regardez surtout à quel prix en fait ces indicateurs-là généraux ont repris du poil de la bête, vous apercevez que c'est au prix de deux réformes du marché du travail de 2010 et de 2012 qui ont précarisé largement des conditions de travail qui n'étaient déjà pas excellentes. Très rapidement, ça veut dire qu'il y a des emplois précaires beaucoup plus fréquemment, des facilités de licenciement et un statut par exemple des autonomos, c'est-à-dire de ces petits entrepreneurs qui étaient au début du mouvement des Gilets jaunes en France par exemple particulièrement mobilisés et qui en Espagne n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Voilà, et sur fond de ce que était rappelé tout à l'heure, de crise du logement majeure, c'est-à-dire ces 700 000 procédures d'expulsion depuis 2008 qui ont été mises en place, donc vous imaginez bien que ça se traduit par des séries de suicides, des mouvements sociaux extrêmement importants, et les gens auxquels il était fait référence, comme Angela Merkel, Luis de Guindos ou Mariano Rajoy, sont plutôt des gens qui, aux yeux de la majorité de la population espagnole, incarnent la responsabilité de la crise, plutôt que des gens sérieux.
Qui auraient aidé l'Espagne.
Plutôt que des gens qui auraient aidé l'Espagne.
Pour rester un instant sur ces questions de l'emploi, Quentin Ravelli, est-ce que, d'une certaine manière, en même temps, la flexibilité de ce marché du travail, avec ces réformes qui ont détricoté certains droits, n'ont pas aussi permis des embauches?
C'est compliqué, c'est-à-dire que vous avez dans ce programme d'austérité qui n'a pas été inventé en Espagne, mais qui en fait existe à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, vous avez à la fois des embauches, mais si ces embauches-là sont précaires avec des facilités de licenciement, elles ne permettent pas aux gens d'avoir une stabilité économique suffisante pour vraiment sortir de la crise. Si ces embauches-là se font avec des baisses de salaire, puisque une des caractéristiques de la réforme Rajoy, c'était de d'autoriser les diminutions sèches de salaire, à ce moment-là, vous avez véritablement un souci, c'est-à-dire que ces embauches-là sont des embauches un peu factices, hein, en tout cas, elles sont perçues comme ça par les gens. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont les femmes qui se retrouvaient à avoir des emplois plus précaires, avec quelques heures par semaine, simplement. Hein. Donc, on a cette espèce de paradoxe-là, qui est que le gouvernement Sanchez, à l'heure actuelle, a fait une annonce quand même qui paraît incroyable vu de l'autre côté des Pyrénées, qui est d'augmenter le SMIC de 22%. C'est une plus
Alors,
grande
sachant
hausse
qu'en
depuis
chiffres,
77.
On passe, je parle en net, cette hausse de 22% permet de passer de 740 euros à 900 euros pour le salaire
c'est
minimum.
C'est ça.
C'est une hausse qui peut paraître importante, même quand on regarde
toute
le montant du salaire.
Gardée. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait que, si vous voulez, toutes ces mesures d'augmentation, d'amélioration, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, je préfère parler de salaire, et de salaire net d'ailleurs, mais en tout cas, toutes ces mesures d'amélioration, elle camoufle quelque chose qui est que l'inflation a été beaucoup plus rapide que les salaires qui ont stagné pendant 10 ans. Hein, vous regardez les courbes pendant les 10 ans qui suivent la crise, à part 2017-2018, l'inflation est nettement plus importante. Donc vous n'avez en réalité qu'un simple rattrapage mécanique et qui est partiel, c'est-à-dire en fait cette hausse qui paraît incroyable, hein, est en fait une manière de compenser des pertes de salaire et n'est qu'une réforme assez logique d'un point de vue économique. Quoi.
Roland Gillet, est-ce que vous partagez cette analyse? Est-ce qu'on est actuellement dans une phase de rattrapage, que ce soit au niveau du montant des salaires ou même au niveau du chômage? Parce que le chômage a quand même été monté extrêmement haut au plus fort de la crise, autour de 27%, je crois. Aujourd'hui, on est à peu près autour de 15%, donc ça dépend des régions. Donc c'est quand même une baisse de 10%. Comment vous l'analysez, cette baisse? Est-ce qu'elle est due à cette fameuse flexibilité du marché du travail? On dit souvent l'Espagne a gagné en compétitivité sur le marché du travail.
Quand vous baissez les salaires en pleine crise de façon drastique, évidemment que vous gagnez en compétitivité, sinon ce serait à pleurer. Quand vous faites des coupes sociales et que vous améliorez le budget qui est en fort déficit et que vous demandez à un seul pays de faire tous les efforts tout seul, vous étonnez pas que son déficit va mieux, mais que de l'autre côté, ça crée des crises sociales. Donc quand j'étais expert sur place, effectivement, j'ai vu cette très grosse différence entre l'Andalousie ou la Catalogne, ou le Nord et le Sud à certains endroits. Effectivement, les problèmes n'étaient pas les mêmes et la manière de les adresser non plus, et l'ampleur de la crise sociale non plus. Et encore aujourd'hui, ces différences sont importantes. Et pour une part, dans le conflit entre Madrid et Barcelone, il y a de ça. C'est des gens qui ont l'impression qu'ils font trop pour leur pays, et qui transfèrent, puisque là il s'agit de transfert, vers une région beaucoup plus faible, où selon eux, il y a plus ou moins de gens qui profitent du système. Et donc vous voyez à quel point, en plus d'avoir une crise dure, les Espagnols ont dû même entre eux essayer de faire des arbitrages pas simples. C'est clair qu'aujourd'hui on a fait des choses qui ont été de relever en tous les cas les équilibres financiers pour pouvoir en tous les cas avoir une crédibilité sur la budgétisation du futur, mais comme Monsieur Ravelli l'a très bien rappelé, c'est sûr que ça a été fait d'abord de façon tout à fait peu solidaire par les autres membres de la Commission européenne, de la communauté européenne, clairement, et pas besoin que ce soit la Commission, et des États en particulier qui voyaient très bien ce qu'on avait fait en Grèce et qu'on dupliquait sur le plan d'aide dans un pays comme l'Espagne. Je voudrais quand même rappeler que autant on pouvait taxer la Grèce d'avoir une très mauvaise gestion publique et bien avant de rentrer dans l'Europe, autant les Espagnols ne pouvaient pas les prendre de la même manière, puisque eux, en 2006, le rapport dette-PIB, c'est-à-dire le ratio d'endettement, était aussi bon, voire meilleur que celui des Allemands. C'est d'ailleurs pour ça, et je l'ai rappelé, qu'ils ont pu faire les efforts seuls, mettent énormément d'argent public espagnol à disposition par l'endettement jusqu'à devenir maintenant un pays qui est maintenant autour de 90%, 90%, pardon, même au-delà de son rapport dette-PIB. Donc ça a été fait non seulement avec des efforts de la population, non seulement avec de l'argent espagnol, non seulement avec de l'endettement espagnol, et tout ça avec des équilibres budgétaires que rappelait chaque fois Bruxelles qu'il fallait suivre. Donc, oui.
Roland Gillet, est-ce qu'aujourd'hui l'Espagne a remboursé ses prêts? Parce que vous avez rappelé, l'aide accordée par la Commission européenne n'était pas une aide, c'était des prêts.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, 2019, l'Espagne s'est dégagée de ses remboursements,
s'est
dégagée de ses prêts?
Tout à fait. Et je voudrais aussi rappeler, mais je suppose que Quentin Ravelli me suivra, c'est que tous les gens qui ont reçu l'aide européenne sous forme de prêts, tellement les exigences derrière étaient fortes, ont été très contents de sortir de ces plans d'aide. Or, quand généralement quelqu'un vous aide, vos populations souffrent, vous ne pensez pas tout de suite à rembourser votre aide pour être sorti d'un carcan qui vous fait mal. Or, ici en Espagne, même si je maintiens que heureusement quand même qu'il y a eu ce mécanisme de prêt, c'est vrai que la population espagnole n'est pas indemne. Et tout spécialement les jeunes, et tout spécialement les jeunes ménages. Et clairement, il a été rappelé tout à l'heure qu'il y a eu jusqu'à des vagues de suicides. Vous me direz qu'il y en a dans tous les pays quand on a une crise sociale. Mais en Espagne, c'était particulièrement grave. J'ai vu, par exemple, pour vous citer l'une ou l'autre anecdote sur le sujet, des jeunes ménages, lors de conférences que je donnais avec d'autres sur la situation là-bas, dans le groupe d'experts que j'étais sur place, où ils venaient me dire, est-ce que vous trouvez normal, mon papa a une maladie qui est un cancer, qui est tout à fait normalement guérissable dans n'importe quel pays en Europe, sauf qu'ici, on a tellement fait des coupes dans les soins de santé, quand le moment où il a été diagnostiqué et le moment où on l'a traité, il était métastasé, il en est mort. Et donc, résultat, moi je me retrouve avec toute une famille à gérer et on m'a pris ma maison. Et donc, je parlais avec cette jeune personne, il devait avoir 40 ans, et quelques semaines après, j'apprenais qu'il s'était suicidé parce qu'il n'en pouvait plus. Donc, ce type de comportement qui aboutit effectivement à des catastrophes sociales, voire à un appauvrissement collectif, ne peut pas être réglé par quelques années, même si c'est simple. Vous avez parlé tout à l'heure, la crise en Espagne n'a pas commencé en fait en 2008. Ça, c'est la crise économique, mais vraiment la crise dure à partir de 2010, quand là, les faillites ont commencé et les banques à avoir des problèmes. Et clairement, c'est à ce moment-là qu'on a vu l'ampleur également de cette crise. Et notez qu'elle était anticipable. Je parle au niveau, en tous les cas, de l'immobilier. Il faut savoir quand même la plus grande banque d'Espagne, la Banco Santander, au moment de la crise, c'était la banque la plus puissante d'Europe. Elle est encore parmi les plus puissantes aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, elle avait rappelé qu'elle n'avait pas de produits subprime américains dans les banques espagnoles, non pas parce que les banquiers espagnols ne comprenaient pas l'anglais, mais simplement parce que leur bilan était gonflé d'immobilier résidentiel espagnol. Alors c'est à partir de 2010 que ça a mal tourné.
Cette question de l'immobilier et du logement, venons-y. Justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Joaquim Jiménez à Madrid. Il réparait des voitures avant la crise et son appartement a été saisi puis muré.
Il ne peut plus faire face au paiement, à son crédit hypothécaire. Il payait un peu plus de 700 euros et d'un coup, les traites sont montées à plus de 1400
euros. Nous devons tenir aussi longtemps que nécessaire ou sinon j'entrerai en force dans un appartement et je verrai à ce moment-là pour les formalités. L'hiver, c'est vraiment dur et je n'ai aucun moyen, pas d'argent. Nous sommes en Espagne et tout le monde clame qu'on a le droit à un logement décent et ça ne se voit pas.
La crise immobilière, ça a été le point de départ de la crise en 2008 en Espagne. À l'époque, l'immobilier, la construction, le bâtiment, c'est vraiment un des piliers de l'économie espagnole, un pilier qui s'effondre. Alors, Est-ce qu'à l'époque, en fait, on avait sous-estimé, c'est ce que commençait à nous dire Roland Gillet, la solidité du secteur de la construction et du bâtiment?
Je crois que c'est à la fois plus compliqué et plus grave que ça. C'est-à-dire, c'est un modèle de développement économique qui n'est pas propre à l'Espagne, qui s'est mis en place au début des années 80 aux États-Unis, qui permettait de libéraliser les marchés financiers. Et ce modèle-là, qui est celui des subprimes, c'est-à-dire de proposer des crédits immobiliers à des gens qui sont pauvres et qui ont très peu de moyens, pour revendre ensuite leurs dettes sur les marchés financiers, faisait qu'en fait la vraie valeur, en réalité, c'était pas le logement, c'était l'argent que les gens pouvaient essayer de rembourser. Et donc ce modèle-là de la dette, la marchandisation de la dette, si vous voulez, a été exporté dans différents pays. En Islande, où ça a été une crise sociale monumentale, on a vu ça en Hongrie, en Pologne, en Afrique du Sud, même en Chine, si vous voulez, d'une certaine manière, vous avez eu un boom de l'immobilier qui amène à l'existence de villes fantômes de plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient censés vivre dans ces villes fantômes. Voilà. En Espagne, comment les choses se sont passées? Années 80, libéralisation du marché financier, mise en concurrence de toutes les petites caisses d'épargne. Début des années 90, vous autorisez la titrisation. C'est-à-dire qu'on peut mettre ensemble des paquets de dettes de plusieurs milliers qu'on coupe en tranches, qu'on revend aux investisseurs internationaux, à la BNP, à la Royal Bank of Scotland, à le Goldman Sachs, à Santander, donc notamment des banques françaises hein, d'ailleurs, qui achètent la dette des Espagnols. Et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle à la fin des années 90. Avec la loi notamment du sol en 98 qui permet de vendre et de revendre les terrains. Donc ça, cette bulle du crédit facile nourrit une bulle bien réelle, bien industrielle, contrairement à cette fable du bon capitalisme industriel et du méchant capitaliste prédateur et financier. En réalité, les deux sont constamment embriqués. Ce qui se passe donc après, c'est que dans les années 2000, l'Espagne construit entre 600 et 800 000 logements par an. 600 et 800 000 logements par an.
Une économie complètement déconnectée du réel, pour le coup. Complètement déconnectée des besoins de la population.
Déconnectée des besoins de la population, et à tel titre que, finalement, c'est plus que l'Allemagne et la France réunies, alors qu'il y a moins d'habitants en Espagne. Donc, tout tourne autour de la question de l'immobilier. Et à cette époque-là, il y avait cette espèce de slogan, cette mythologie économique qui vise à dire « La vivienda nunca baja », le logement ne baisse jamais. Comme si, indéfiniment, la courbe de croissance allait tirer vers le haut. Et donc, juste pour que les auditeurs comprennent bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on transforme artificiellement toutes les classes populaires espagnoles en petits investisseurs qui parient sur leur logement au lieu de simplement vivre dedans. Ce qui se traduit par exemple, une attente de voir la valeur de son logement doubler. Vous achetez 100 000 euros votre logement en 2005, vous pensez qu'en 2010 il vaudra deux fois plus. Ce qui se passe après 2008, c'est exactement l'inverse. C'est ce qu'a rappelé tout à l'heure Monsieur Gillet, c'est que en réalité c'est l'inverse qui s'est passé. Donc les gens se sont retrouvés à la rue et surendettés. Donc juste pour terminer, pour comprendre ce qui se passe en Espagne aujourd'hui, il faut remonter 30 ans en arrière, comprendre ce décollage de la spéculation immobilière, cette exportation du modèle de libéralisation par la dette, et comprendre que c'est presque 20% du produit intérieur brut, 20% de la richesse nationale qui était liée directement ou indirectement à l'immobilier. Donc quand tout ça s'effondre en 2008... et 2010, 2011, 2012, évidemment, c'est l'ensemble de l'économie espagnole qui s'effondre avec. Et c'est pas en quelques années, c'est impossible qu'en quelques années, un pays se relève et recrée comme ça toute une économie, toute une industrie aussi rapidement.
C'était précisément ma prochaine question, ce sera pour vous, Roland Gillet. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on a résorbé cette crise immobilière? Alors là, je parle vraiment du secteur immobilier, de cette bulle, de cette économie qui repose sur du crédit, essentiellement, comme nous l'a rappelé Quentin Ravelli. Est-ce que ce secteur-là, aujourd'hui, est un peu plus assaini? Est-ce qu'on construit de manière plus raisonnable en Espagne?
On essaye d'abord d'absorber tout le stock, ce qui est déjà le plus difficile. Et deuxième élément, ce qui s'est passé sur les premières résidences en Espagne, c'est également passé sur les secondes. C'est-à-dire que, non content d'avoir expliqué, et ça a été rappelé, que c'était une bonne décision de devenir propriétaire, même à crédit, on a fait également beaucoup de développement immobilier, avec d'ailleurs des fonds FEDER. Donc l'Europe était parfaitement au courant de ce qui se passait dans pas mal de villes côtières, c'est-à-dire qu'elle aidait à 30, voire parfois 40% des constructions, ou en tous les cas des sites qui était dédié justement à ce type de logement, où vous voyez encore quand vous allez en Espagne maintenant, parfois 1000 petites maisons les mêmes, ou 500 appartements les mêmes, où ça c'est plutôt de la clientèle espagnole qui achète que de la clientèle étrangère, ce qui explique d'ailleurs pourquoi ça a été si difficile après de les vendre. Donc ça c'est le premier élément. Mais deuxième élément, et là je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit, l'Espagne n'est pas morte du tout du problème du subprime, ça a accentué. Ce qui a posé problème, c'est de faire croire aux gens, dans toutes les économies d'ailleurs dans le monde, et c'est vrai encore aujourd'hui, quand on réfléchit à ces problèmes de logement et qui peuvent être réglés de deux façons, soit en achetant, soit en louant, dans beaucoup de pays, avec des avantages fiscaux, voire avec des pressions sur les taux des crédits que les banques accordent, on a fait croire à beaucoup de gens qui n'en avaient pas les moyens, d'où le mot subprime, qu'ils étaient tout à fait capables, dans une vie normale, de rembourser après 20 ans, voire en Espagne, 35 ans, leur logement. Et là, c'est évidemment le début de la catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, la moyenne d'espérance d'un couple, qui soit d'ailleurs marié ou qui soit simplement concubin, est de l'ordre de 7 ans. Pousser des gens à devenir propriétaires sur base de leurs deux revenus, sans même parler de possibilités en légère crise économique qui perdent leur emploi, de devoir faire face alors que la banque a pris garantie sur des revenus liés aux deux revenus, d'abord qui vont finir ensemble, vu que l'espérance de vie est de 7 ans, quand on s'entend d'être à 20 ans ou à 35 ans, la probabilité est faible. Deuxième élément, une fois que vous avez pris ça en compte, vous pouvez toujours avoir des problèmes lors d'un retournement de la conjoncture. Et ça, on voit à quel point c'est dramatique et ça tue des tas de gens.
Mais est-ce que ces pratiques, est-ce que ces pratiques existent encore aujourd'hui? Est-ce qu'on accorde encore des prêts à 35 ans à des couples en Espagne?
35 ans, c'est sans doute plus, mais 20 ans encore. Et les taux d'intérêt ayant fort baissé sous l'impact, notamment, de l'intervention justifiée à ce moment-là de la baisse des taux liés par la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Américaine, je parle pour les États-Unis, vous avez encore des gens aujourd'hui qui pensent à des taux pareils, que c'est une bonne décision de devenir propriétaire en n'ayant aucun moyen à côté de ce qu'ils ont mis dans leur immeuble pour pouvoir le conserver et en devenir propriétaire au bout de 20 ans. Donc je pense que la première déviance est là. Maintenant, je rejoins ce qui a été dit. Si vous, en plus, vous titrisez, si en plus vous avez des marchés financiers qui se gavent de ça, c'est sûr que vous accentuez le problème et vous le reportez sur d'autres. Mais pour avoir vraiment été, et j'ai des chiffres ici, si vous souhaitez aller plus loin dedans, sur ce qui se passait en Espagne au moment d'analyser le problème, clairement, c'est ça la déviance. Et la deuxième déviance, c'est que pendant que vous faites ça, vous avez une croissance évidemment très élevée. Comme on l'a rappelé, quand vous construisez 800 000 appartements, voire 1 million à certains moments, alors que la population n'en a peut-être pas le besoin et n'a surtout pas les moyens de sa politique, et que de l'autre côté, en Espagne c'était le cas, il y avait aussi l'immobilier d'infrastructure, où là, sur base de fonds FEDER, là, à 40%, on a construit des aéroports, des tramways, des lignes TGV. Je vous invite un jour, parce que moi j'ai dû le faire justement lors de la crise en Espagne avec des gens de la Troïka, de prendre le TGV qui va de Madrid à Barcelone. Vous verrez qu'il est pendulaire. Il y a pratiquement, avant, quand vous arrivez, donc près des Pyrénées, près de Barcelone, un ouvrage d'art tous les 400-500 mètres. Un pont, un viaduc, un tunnel, un pont, un viaduc, un tunnel. Parce qu'on a expliqué aux Espagnols que quand on le fait convenablement, il doit être plat. Regardez la ligne qui se construit pour le Mans, pour aller à Strasbourg, elle épouse quand même le relief. Donc je pense que comme ils recevaient de l'argent européen et le budget était avalidé par l'Europe aussi, pour faire ce type de travaux, ce type de développement, il y a une responsabilité collective à adresser. Or, aujourd'hui, et ça, je trouve que c'est malheureux dans un club, et je ne suis pas pour dire les Espagnols contre les autres ou les autres contre les Espagnols, je trouve que la solidarité pêche, et c'est pour ça qu'ils ont aussi difficile aujourd'hui à s'en sortir, et qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont laissés pour compte, bien en deçà de ce qu'on aurait pu faire pour eux.
C'est-à-dire qu'on essaye aujourd'hui de dresser le bilan de la crise et du bilan des politiques d'austérité. Si je vous entends bien, Roland Gillet, il faudrait aussi dresser ce bilan au niveau européen.
Bien entendu, parce qu'à partir du moment où les entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous me tendez la perche, est essentiellement des entreprises européennes, et je ne citerai pas leur nom, mais réfléchissez, les gens qui sont les leaders, par exemple, dans le génie civil, dans le béton, dans tout ce qu'on a fait sur place, si on accepte la main d'œuvre, vous doutez que c'est des grands groupes européens. Regardez d'ailleurs, vous retrouverez sans doute leur nom dans les principaux fournisseurs et les principaux clients de l'Espagne, et vous verrez vous-même que c'est sans doute là qu'il y a une partie de l'argent des fonds FEDER qui est revenu directement, alors qu'aujourd'hui on laisse les Espagnols, et pendant la crise aussi, sauf les prêts, gérer leurs problèmes seuls. Et un dernier point que je voudrais rappeler, quand on parle de ce qui s'est passé aux États-Unis sur le subprime, ça tuait moins les gens aux États-Unis qu'en Espagne ou dans tout autre pays européen, parce que là-bas, il faut savoir que la faillite personnelle existe. Ce qui veut dire, vous ne savez plus rembourser votre crédit immobilier, vous rendez la clé à la banque, même si cette cette banque fait des pertes en revendant votre maison parce que vous elle la vend en dessous de ce que vous lui devez encore, c'est le problème de la banque. Tandis qu'en Europe, et c'est ça qui est dramatique, ce sont des vrais crédits hypothécaires, et si jamais la banque perd de l'argent en revendant votre immeuble par rapport à ce que vous lui devez, à ce moment-là, c'est encore à vous de l'honorer. Donc vous vous retrouvez sans toit, et vous êtes obligé encore de rembourser, et vous êtes encore fiché comme étant un mauvais débiteur, et donc ça vous tue pour un ménage, ou voire pour des individus pendant longtemps.
Précisément sur ces questions, Quentin Ravelli, j'ai pu lire qu'au plus fort de la crise, vers 2012, on était à 100 000 expulsions par an. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore de l'ordre de presque 200 familles qui sont expulsées encore aujourd'hui par jour en Espagne. Est-ce que, en plus de cette crise, il n'y a pas eu aussi un facteur aggravant qui était l'absence de protection, l'absence de filet de sécurité de la part de l'État espagnol pour ces familles qui non seulement étaient à la rue, mais en plus devaient continuer à payer leur traite.
Oui, si vous voulez, c'est vraiment la crise dans la crise, mais l'État espagnol, loin de protéger les familles qui étaient menacées d'expulsion, autorisait les expulsions souvent violentes par la police de familles qui n'avaient aucun autre recours. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qui aurait pu être changé très simplement pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire en autorisant une modification de la loi, en disant maintenant les banques n'ont plus le droit de poursuivre les expulsés surendettés une fois qu'elle a saisi leurs biens, ce qui est en fait de bon sens. Mais il arrivait très souvent que non seulement vous ayez perdu votre logement, mais que vous ayez en plus une dette de 50, 60, 100 000 euros. Ce que les militants contre les banques et contre le gouvernement espagnol à cette époque-là appelaient la mochila, le sac à dos de dette que vous gardez une fois qu'on vous a expulsé. Alors ça a été au cœur du tour politique, parce qu'il n'y a pas d'un côté l'économie et de l'autre la politique, en fait tout ça est imbriqué, le tourbillon politique, d'où a émergé une figure, celle de Ada Colau, qui est la porte-parole, qui était à l'époque la porte-parole d'une plateforme de lutte contre le surendettement.
Et qui est aujourd'hui maire de Barcelone.
Donc c'est et la première femme d'ailleurs, maire de Barcelone aussi. C'est pour dire que du fond de la crise, en fait, a germé aussi des solutions qui n'était ni celle de Bruxelles, ni celle du gouvernement espagnol, mais celle de la population espagnole elle-même qui a court-circuité les tentatives de sauvetage qu'on a payées avec nos impôts par ailleurs. C'est-à-dire que l'argent de l'Europe a aussi servi à renflouer des banques qui continuaient à expulser par ailleurs. Donc les solutions, elles ne venaient pas véritablement de là, elles venaient plutôt de ce qu'on a entendu tout à l'heure rapidement dans votre petit reportage, à savoir quelqu'un qui dit « moi j'hésite à casser la porte d'un logement vide entre 3 et 4 millions de logements vides, vous imaginez que c'est pas très compliqué d'en trouver dans n'importe quelle grande ville espagnole, de rentrer et de l'occuper. Donc moi j'ai pu assister plusieurs fois à des visites immobilières étonnantes dans lesquelles on regarde les volumes, comment on récupère l'électricité, l'eau, etc. Mais on ne parle pas du prix. Simplement, le logement est considéré comme un besoin social, et si on n'a pas les possibilités de payer, à ce moment-là, c'est pas grave, on ne paye pas. L'important, c'est qu'on ait un toit au-dessus de la tête. Et cette façon de retourner comme un gant cette espèce de culte de la petite propriété est une des choses les plus puissantes que j'ai pu voir en Espagne, et je pense qu'on devrait s'en inspirer dans d'autres pays.
Vous pouvez nous rappeler justement les modes d'action de cette plateforme, la plateforme des expulsés hypothécaires d'Espagne.
Alors, je traduirais ça autrement, parce que c'est Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donc la plateforme des affectés par le crédit immobilier. Parce que hypothèque, ça veut rien dire pour les gens en France. Bon, c'est du crédit, c'est de la dette.
Ce sont des collectifs qui se sont organisés dans les villes de manière très horizontale. Il y a des collectifs dans vraiment beaucoup de villes. Les gens se retrouvent sur des places et disent voilà, moi, je vais bientôt être expulsé d'un logement. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, dans plus de 230 villes d'Espagne, on a retrouvé des collectifs comme ça, donc de la PAH, où les gens ont différentes manières d'agir face à la banque qui exige des remboursements. Alors, il faut préciser quand même que souvent, c'est des remboursements effectivement sur 35, voire 40, parfois 50 ans, transmissible au tiers, mais avec des réseaux d'endettement par système de caution croisée qui fait que la dette, c'est une espèce de glue qui colle plusieurs familles entre elles et qui lie leur destin. Si l'une d'elles tombe, une autre tombe et une troisième tombe aussi. Enfin, c'est un système assez sophistiqué qui a été largement remis en question. Donc, que font les Afectados? Que fait la PA? Déjà, ils occupent les banques, alors avec de la musique. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un tango où une vieille dame était mise dans un caddie de supermarché. Elle était surendettés, les gens chantaient avec des perruques, etc., écoutaient du zouk, et mettaient la pression sur la banque jusqu'à ce qu'on obtienne un canal de négociation.
Donc cette pression fonctionne, les banques finissent par accepter de négocier, de revoir à la baisse les crédits, de rééchelonner par exemple.
Non seulement ça fonctionne, mais ça fonctionne de plein de manières, c'est-à-dire ou bien les gens restent dans leur appartement et on annule le reliquat de dette, ou bien simplement on obtient d'eux qu'ils s'en aillent, mais à ce moment-là leur dette est annulée. Mais il y a aussi des cas étonnants dans lesquels non seulement les gens restent dans le même appartement, mais la banque est transformée en une sorte d'office HLM, puisqu'elle devient le bailleur de la personne qui est dans l'appartement, qui va payer un loyer social de 50-60 euros par mois, parfois pour des 3-4 pièces. Hein, donc c'est une famille entière qui peut se loger pour un tarif extrêmement bas. Moi, c'est une des choses que j'ai trouvées les plus étonnantes et les plus créatives dans ce mouvement social-là, c'est le fait de transformer en moment de des pièces de théâtre, des jeux de loi géants dans les banques. Vous imaginez au Crédit Lyonnais ou au Crédit Agricole du coin une mobilisation de ce type-là pour obtenir des annulations de dettes. Bon voilà, il y a quelque chose peut-être qui ressemble un peu à cette innovation des ronds-points qu'on voit chez les gilets jaunes aujourd'hui. Les mouvements sociaux sont de plus en plus créatifs.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon. L'Espagne est-elle vraiment sortie de la crise? On en discute avec nos invités ce matin. Quentin Ravelli, sociologue chargé de recherche au CNRS, et Roland Gillet, en duplex depuis Bruxelles, professeur de finance à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Alors, Quentin Ravelli nous a rappelé les actions qui ont pu être menées pour faire face à la crise au niveau des citoyens. Mais au niveau du gouvernement, Roland Gillet, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre des autorités espagnoles? Alors, on ne sait pas quel gouvernement politique, enfin quel parti va sortir vainqueur de ces élections, va pouvoir former une majorité. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que les socialistes, jusqu'ici au pouvoir, avaient prévu une loi de budget avec une politique de relance assez ambitieuse, qui n'a donc pas trouvé de majorité. Néanmoins, la question demeure, est-ce qu'aujourd'hui, l'Espagne a les moyens d'une politique de relance ambitieuse?
D'abord, la réponse est sans doute, mais il y a un point sur lequel je voudrais quand même revenir, parce que ça, je peux pas laisser passer. Vous savez, aujourd'hui, quand même avant, dans un crédit immobilier, une personne ne le rembourse pas parce qu'elle a eu les yeux plus grands que le ventre ou parce qu'on l'y a poussé, ce n'est pas l'État qui perd de l'argent, mais absolument pas. Regardez l'actif d'une banque. Vous avez d'un côté de l'argent qui est prêté par des petites gens qui mettre sur, notamment dans les caixas espagnoles, de l'épargne sur un compte, et cet argent est reprêté à long terme à des gens qui sont des gentils ménages, des PME, voire surtout sur les caixas, des collectivités locales. Quand il y a un défaut, mais tout ce qu'on risque, c'est de ne pas rembourser les gens qui ont amené l'argent, et ces gens, ce sont des petites gens. C'est pour ça qu'on sauve les banques. J'étais administrateur dans Bankia. Bankia, ce n'est jamais qu'une banque qui a collecté tout ce que les caixas ont prêté, alors que c'était des banques d'ailleurs souvent sous autorité publique, et qui n'a pas pu être remboursé. Et pour vous donner une idée, sur l'aide espagnole qui était de l'ordre de 76 milliards, donc l'aide de l'Europe à l'Espagne sous forme de prêt, on a utilisé presque 40 milliards, 36 ou 37 plus exactement, pour sauver et pour aider les caixas et notamment Bankia. Pourquoi? Mais parce qu'évidemment, si on ne l'avait pas fait, ça aurait été au détriment de la petite épargne des gens qui ont déposé leur argent et dont cet argent s'est retrouvé dans des murs qui ne valaient plus rien. Donc je ne peux pas laisser dire, je m'excuse, sur le volet économique et financier, et je ne suis ni pro des banques, ni pro du gouvernement espagnol, ni pro de rien du tout, mais il faut que d'abord regarder la situation telle qu'elle a été mise en place, et c'est plutôt la faute d'avoir donné l'espoir à des gens qui, s'ils avaient des exemples de vie, comme j'ai rappelé tout à l'heure, par exemple, une crise économique qui fait qu'un des deux perd leur emploi, qu'un des deux s'en va dans la relation, et que, alors, à ce moment-là, on n'a plus les moyens de payer, qu'on se retrouve face à une impasse. Et forcément, la cristallisation d'un grand nombre de gens qui vivent la même chose fait qu'à un moment donné, la banque tombe en faillite et qu'il faut souvent, à ce moment-là, en tous les cas, de l'argent public pour essayer de la ramener à flot. Mais je voudrais quand même être très clair là-dessus. Deuxième élément, le patriotisme qu'on a souvent relevé des Espagnols. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Quentin Ravelli, qui consiste à dire les Espagnols sont plus patriotes qu'ailleurs parce que quand un de leur famille fait défaut, les autres se serrent la ceinture pour l'aider. Et évidemment que c'est pour ne pas que la personne se retrouve à devoir encore quelque chose à la banque alors qu'elle n'a plus de toit. Mais pendant qu'on fait ça, puisqu'on a poussé ces gens à devenir propriétaires, tous ces gens qui sont la membre de la famille qui est dans le défaut, ceux-là diminuent leur habitude de consommation. Vous aggravez encore la crise un peu plus. Aggravant la crise un peu plus, vous aggravez le chômage. Vous aggravez le chômage, vous aggravez les gens qui ne savent plus rembourser leurs prêts. Et on est parti dans une boucle un peu comme une avalanche où la boule grossit. Par contre, de dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, la bonne idée, c'est de ne pas rembourser son prêt, alors que personne ne vous a poussé à le faire, et que c'est quand même votre maison qui a créé des problèmes, ça, je trouve que c'est aller vite en besogne.
Je laisse Quentin Ravelli vous répondre. Ouais,
là, moi, je serais en net désaccord parce que les gens se retrouvent avec des dettes qui sont non seulement illégitimes, on parle beaucoup de dettes illégitimes dans le cas des dettes souveraines en Grèce, etc., mais qui sont impossibles à rembourser. Moi, j'ai été dans 12 villes d'Espagne pour essayer de voir statistiquement qui étaient les gens qui sont dans ces mouvements-là, et on s'aperçoit que dans plus de 50% des cas, c'est des gens qui n'ont même pas les moyens, avec tous leurs revenus, de rembourser leurs dettes mensuelles. Hein, ils n'ont absolument pas les moyens de rembourser ces dettes-là. Donc, et ça, pour quelle raison? C'est parce qu'on les a poussés, comme vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, on les a poussés à signer des crédits immobiliers extrêmement extrêmement élevés, quoi. Donc voilà, pour moi, la question, c'est pourquoi est-ce que si l'argent public a servi à renflouer les banques, pourquoi est-ce que cet argent-là n'a pas servi à maintenir les gens dans leur logement, quoi. Pour moi, c'est ça le problème politique de fond autour du logement.
Quoi. Roland Gillet, on arrive à la fin de cette discussion. Il faut qu'on retrouve une deuxième invitée. Je vous laisse vraiment trois mots pour répondre, pour terminer cette discussion très intéressante, mais qui mériterait peut-être encore une autre émission.
Oui, certainement. Mais ce que je veux juste dire, c'est que effectivement, il y a des gens qu'on devrait sauver aujourd'hui parce que le système social ne doit pas créer des gens qui, de toute façon, n'en peuvent plus. Mais de l'autre côté, et ça, c'était au début de la crise qu'on aurait dû le voir, et surtout même avant qu'elle n'ait lieu, c'est de prêter à des gens dont le moindre accident de vie ou la moindre récession économique peut leur faire perdre leur emploi et de dire après c'est pas de leur faute parce qu'ils ne remboursent pas à d'autres qui ont été suffisamment gentils pour déposer de l'argent pour qu'on leur prête, ça c'est effectivement totalement criminel. Et je répète encore une fois, autant il faut être social, et je pense à la fois en Grèce, en Espagne, au Portugal et encore maintenant en Italie, où je travaille sur le sujet comme expert, on essaye de le faire, mais il y a des limites aussi à dire à un moment donné, on s'engage dans quelque chose, on ne sait plus ce qu'on a signé, et à un moment donné, c'est quand même soi qui a décidé ou non de devenir propriétaire, alors qu'on aurait pu être un honnête locataire et ne jamais vivre ces moments-là.
On est avec vous, Quentin Ravelli et Roland Gillet. Tout de suite, focus sur la question des travailleurs immigrés.
Moi, la première chose que je demande, c'est les papiers de sécurité sociale et la carte d'identité. S'ils l'ont, c'est bon. Sinon, pas de travail. Il y a d'autres entreprises, pas forcément les plus grosses, qui emploient des sans-papiers. Comme ça, ils n'ont pas à payer les cotisations. Tout est au noir.
Je suis venu en Zodiac. Je suis passé par le Maroc. Les gens qui arrivent ici, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien. Il n'y a plus de travail et le travail est très peu payé.
En mars 2019, la secrétaire d'État aux migrations, Consuelo Rumi, a appelé à l'embauche de 270 000 migrants en Espagne d'ici 2050. Bonjour Natacha Lillo.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maître de conférences en civilisation espagnole contemporaine à Paris Diderot Université. Est-ce qu'il faut déduire de cette annonce de la secrétaire d'État aux migrations que l'économie espagnole actuellement manque de main-d'œuvre? Autrement dit, que certains secteurs ne pourraient pas fonctionner sans main-d'œuvre étrangère?
Oui, bon, il faut savoir que l'Espagne est un pays, en gros, quelques temps après la mort de Franco, il y a une grande baisse de la fécondité des Espagnols, une baisse de natalité. Donc aujourd'hui, l'Espagne est le pays qui a la natalité la plus faible de l'Union européenne. Et donc, du coup, il y a besoin de main-d'œuvre, il y a surtout moins besoin de main-d'œuvre dans les secteurs peu qualifiés, qui sont le bâtiment, qui sont le tout ce qui est services domestiques, soit aux personnes, soit aux enfants, puisqu'en Espagne il y a très peu de systèmes de crèches, donc entre 0 et 4 ans, ben on est obligé de faire garder ses enfants dans des structures privées ou par des femmes qui viennent à domicile. Et c'est également le cas pour les personnes âgées, puisqu'en fait c'est pareil, il y a très peu de maisons de retraite et du coup ce sont souvent des femmes étrangères, hein, latino-américaines, voire venues d'Europe de l'Est qui vont garder les personnes âgées. Sinon il y a également le tourisme, hein, l'Espagne depuis la crise du tourisme dans les pays comme la Tunisie, enfin comme le Maghreb, la Turquie, l'Égypte, l'Espagne a beaucoup augmenté son tourisme avec 82 millions de visiteurs l'année dernière. Et il y a également un secteur qui demande beaucoup de main-d'œuvre, qui est l'agriculture, notamment l'agriculture destinée à l'exportation, tout ce qui est produits primeurs comme les fraises, les asperges, les fleurs, enfin toute une série qui ce sont une agriculture qui ne peut pas être mécanisée et du coup qui fait appel à beaucoup d'hommes et de femmes étrangers.
Natacha Lio, quel a été l'impact de la crise dont on parle depuis ce matin sur cette immigration? Est-ce qu'on a constaté au plus fort de la crise 2012-2013 une diminution des arrivées en Espagne?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'Espagne n'était pas un pays d'immigration. Hein. En 1980, il y avait seulement 200 000 étrangers en Espagne, même moins. Et l'immigration a vraiment augmenté à partir des années 90 et il y a eu un véritable boom à partir de 2000. C'est-à-dire qu'il y avait moins d'un million de personnes en 2000, 5 millions en 2008, donc avec en gros 4 millions d'arrivées sur les 8 ans. Les arrivées se sont tassées en 2008-2009 et le solde migratoire a été négatif de 2010 à 2016, c'est-à-dire qu'il y avait plus de départs d'Espagne que d'arrivées. Mais là, depuis 2016, le solde est à nouveau redevenu positif et il y a à nouveau des gens qui viennent travailler, puisque comme il y a une reprise, par exemple les femmes espagnoles qui avaient, bon, un certain nombre d'entre elles qui avaient perdu leur emploi, si elles se remettent à travailler et qu'elles ont un ou plusieurs enfants, eh ben, il faut à nouveau de la main-d'œuvre pour s'occuper des enfants. Et c'est pareil dans le secteur des personnes âgées, c'est-à-dire qu'on a très bien vu au moment de la crise que si les femmes, enfin les couples, parce que des fois les deux personnes du couple étaient au chômage, ont arrêté de prendre du personnel pour comme des femmes de ménage ou pour s'occuper des enfants. En revanche, les gens ont continué à avoir du personnel domestique pour s'occuper des personnes âgées parce que dans certains cas, ils ont été obligés de le faire, mais dans la plupart des cas, les familles n'avaient pas envie d'accueillir une personne âgée dépendante chez eux comme ça se faisait naturellement sous le franquisme et dans les périodes antérieures.
Alors là, on parle beaucoup de l'immigration légale. Il y a aussi un phénomène très important d'immigration illégale en Espagne, notamment des gens qui viennent travailler dans le secteur de l'agriculture d'exportation, les cultures sous serre, notamment dans le sud du pays. D'ailleurs, l'Espagne a passé des accords avec le Maroc. Il y a eu plusieurs scandales sur la question des salaires, des conditions de travail, notamment des Marocains qui viennent cueillir les fraises en ce moment. Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, c'est une économie qui prospère aussi sur une certaine exploitation d'une main-d'œuvre parfois illégale.
Oui, bah alors il y a deux sortes de choses. Pour les fraises, c'est la campagne la plus importante. L'Espagne exporte des fraises dans toute l'Europe et on exportait même en Russie avant les sanctions et le fait que par réciprocité la Russie refuse. Mais oui, donc il y a pour les Marocaines, enfin Marocaines, cette année il y a eu des contrats signés pour 19 200 personnes, donc qui viennent pour un temps donné avec un salaire à l'heure fixé. Bon. Ça c'est légal, mais il y a également un volant, c'est-à-dire un volant d'immigrants, notamment marocains et sénégalais, qui vivent dans des bidonvilles, enfin bon, qui se sont fabriqués des petites baraques de briques et de broc à côté des serres et qui eux servent, enfin en gros travaillent quand les gens sous contrat ne travaillent pas, parce que les gens sous contrat ne travaillent pas, par exemple ne travaillent pas le dimanche. Il y a aussi beaucoup de femmes polonaises qui viennent et les femmes polonaises le dimanche elles vont à la messe, donc elles ne travaillent pas et du coup c'est là qu'on emploie les Marocains parce que la fraise n'attend pas. La fraise le dimanche elle a besoin d'être ramassée et aussi pour travailler la nuit par exemple. Donc ce que ne font pas les gens qui viennent sous contrat. Donc il y a un peu deux niveaux et y compris des Marocaines sous contrat se sont plaintes notamment d'agressions sexuelles plus ou moins poussées de la part de leurs employeurs espagnols. Ce qui a été reporté dans la presse parce qu'il y a des associations en Espagne Espagne, il y a plusieurs ONG qui s'occupent de la situation des étrangers et donc qui ont répercuté ces plaintes de ces femmes marocaines.
C'est là qu'on voit le prix des fraises qu'on trouve en ce moment sur les marchés parisiens, par exemple. Un autre phénomène également concernant les migrations, Natacha Lillo, c'est aussi le départ de milliers d'Espagnols, 500 000 personnes l'année 2013, 900 000 en tout depuis le début de la crise. Quels sont les profils de... Alors, on a beaucoup parlé des jeunes, effectivement. Est-ce que employer le terme fuite des cerveaux convient pour qualifier ce qui s'est passé en Espagne du côté de la jeunesse?
C'est-à-dire qu'à la grande différence de l'émigration, la grande immigration espagnole des années 60-70, qui s'était dirigée essentiellement vers la France, l'Allemagne, la Suisse et quelques autres pays européens, ces migrants-là, c'était des gens peu qualifiés, enfin absolument pas qualifiés, qui quittaient les campagnes parce qu'il commençait à y avoir une mécanisation, qu'ils n'avaient plus de travail. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des gens qualifiés, ce sont des gens qui souvent ont des masters, ont des doctorats, et qui auraient trouvé du travail en Espagne dans le secteur du tourisme, mais qui, après leurs années d'études et d'études longues, n'avaient pas envie de juste gagner leur vie à être serveur dans un bar ou à vendre des glaces sur une plage. Donc c'est ça qui a motivé ces départs. Donc a priori, le premier pays où les gens sont allés, c'est la France, parce qu'en fait, il y a des liens anciens. Moi, j'ai retrouvé des familles que j'avais interviewées pour les années 60-70, dont un neveu, un cousin, un petit-fils, qui sont revenus travailler en France. Il y en a pas mal aussi qui sont allés en Allemagne, y compris l'Allemagne avait proposé dans la presse espagnole, il y a eu quelques accords entre le gouvernement espagnol et Madame Merkel pour embaucher des Espagnols, notamment dans des systèmes électroniques, avec une formation à l'allemand à la clé et une formation. Donc il y a des gens qui sont partis dans toute l'Europe. Il y a même un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Marea Granate, c'est-à-dire la marée couleur grenat parce que c'est la couleur du passeport espagnol, et qui ont organisé des événements symboliques un peu partout. Leur slogan c'était « Nous ne partons pas, on nous met dehors ».
Je crois que les autorités espagnoles aujourd'hui aimeraient bien faire revenir ces exilés, mais est-ce que l'Espagne a les moyens de faire revenir cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a à offrir en termes de perspectives d'emploi, de salaire, etc.?
Bah pour l'instant, pas grand-chose. En plus, ce qui se passe, c'est que, par exemple, quelque chose qui est vraiment grave, c'est qu'au moment, avec la crise, ont été fermés des instituts de recherche en physique, en mathématiques, en médecine, dont les gens, les jeunes qui faisaient une thèse dans ces instituts ont dû partir, ils ont dû se trouver un directeur à l'étranger, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs. Et ces gens-là, pour l'instant, sont pas prêts à rentrer. Moi, dans l'université dans laquelle je travaille, dans les domaines de physique, de maths, d'informatique, etc., il y a un certain nombre de jeunes Espagnols qui travaillent comme vacataires, et pour l'instant je pense pas qu'ils soient prêts à retourner en Espagne, parce qu'en Espagne de toute façon les salaires ont baissé et il n'y a pas beaucoup de postes pour eux.
Suelo despertar con una impresión.
Suelo despertar con una impresión de infelicidad. Quentin Ravelli, vous m'aidez pour la traduction. Je me réveille souvent avec une impression de tristesse. Ça conviendrait?
Ça ira très bien.
Ouais. C'était Mi novela autobiográfica du groupe Le Mans, originaire de San Sebastián.
No me hace ilusión la vida formal, la revolución del materialismo filosofa.
Merci beaucoup. Merci à vous, Natacha Lillo. Vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle, historienne, maître de conférences en civilisation espagnole contemporaine à Paris Diderot Université. Et merci à nos deux invités en plateau, Quentin Ravelli. Je rappellerai pour vous Briques rouges, dette, logement et lutte sociale en Espagne aux éditions Amsterdam, paru en 2017. Et puis votre documentaire Briques. Je ne sais pas s'il est encore visionnable d'une manière ou d'une autre sur Internet.
Sur Internet, non, mais le DVD ne saurait tarder dans quelques mois, normalement.
Et puis merci à vous, Roland Gillet, professeur de finance à l'Université Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles. Et merci à Bruxelles, au Centre de presse internationale, de vous avoir accueilli pour le Duplex.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors on vient de fêter le 70e anniversaire du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, mais on a un peu oublié aujourd'hui les origines géostratégiques de l'OTAN, vous nous les rappelez ?
Elles ont été résumées d'une formule lapidaire par Lord Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN, un général britannique très lié à Churchill, je le cite « To keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down ». Garder l'URSS dehors, les Américains dedans et les Allemands par terre. La mise en commun du charbon et de l'acier, le premier pas accompli en direction de l'Union européenne, avait pour objectif principal, on l'a oublié depuis, de mettre sous contrôle la reconstruction industrielle de l'Allemagne. Et la création de l'euro fut le prix à payer, exigé d'ailleurs par la France, pour la réunification allemande. Alors on peut mesurer le chemin accompli en ayant entendu un ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, confier qu'il redoute bien davantage l'inactivité de l'Allemagne que sa puissance. L'Allemagne, crainte autrefois par ses voisins pour son militarisme agressif, est devenue sans doute la nation la plus pacifique d'Europe. Le seul reproche que l'on puisse lui faire, c'est de négliger sa contribution à la sécurité commune. Angela Merkel ne vient-elle pas d'annoncer que le budget de la défense de l'Allemagne allait encore reculer, passant de 1,37% du PIB à 1,25% dans les 4 années à venir. Trump est furieux. À comparer avec les États-Unis qui consacrent 3,1% à la défense ou à la Russie 4,3%. Mais nous traversons des temps bien incertains et rien ne dit que les choses sont vouées à demeurer identiques et c'est du moins l'avertissement lancé par Robert Kagan dans le numéro d'avril-mai de la revue Foreign Affairs. Quatre facteurs expliquaient aux yeux de Kagan le relatif effacement en Europe d'une puissance, l'Allemagne, qui n'avait cessé de jouer les troubles fêtes et les semeurs de guerre de 1866 à 1945. Il y avait d'abord la garantie de sécurité apportée par les États-Unis à l'Europe de l'Ouest. Elle a permis aux nations sous protection de se consacrer à rétablir leur prospérité et à améliorer les conditions de vie de leur peuple. Et c'est l'une des causes principales de la stabilité politique dont ont bénéficié en effet nos États. Ensuite, il y a le système économique libéral. Le libre-échange a permis aux industries allemandes de faire la preuve de la qualité de leurs produits en les exportant dans le monde entier. Mais dès les années 80, les Américains prirent conscience qu'ils étaient perdants dans de nombreux secteurs comme l'automobile ou l'acier face à l'Allemagne comme face au Japon. Mais s'ils se résignèrent à se faire tailler des croupières sur le plan commercial par ses anciens ennemis, c'est que la prospérité de ces deux pays était des piliers de l'ordre multilatéral voulu par les États-Unis eux-mêmes. Troisième cause, l'ordre démocratique paraissait le sens même de l'histoire. Contrairement aux années 30 où en Europe la démocratie parlementaire était jugée comme un régime faible, jamais les démocraties européennes n'ont paru aussi affermies et sûre d'elle-même qu'en 1989, lorsque les anciennes démocraties populaires ont manifesté leur ardent désir de retourner en Europe et d'adopter les institutions libérales et démocratiques de l'Europe de l'Ouest. Enfin, un quatrième facteur, l'Allemagne a pu échapper aux démons de son passé parce que les passions nationalistes semblaient partout éteintes. Elle l'était en Allemagne comme dans toute l'Europe.
Et pourtant, prévient Robert Kagan, dans l'article que vous citez, les choses ont bien changé en peu d'années en Europe.
Mais oui, parce que la garantie de sécurité américaine est fort douteuse depuis que Donald Trump lui-même l'a mise en question par ses proclamations isolationnistes. De même, l'ordre international libéral qui a permis l'enrichissement des nations exportatrices est en train de se défaire. La démocratie elle-même est à nouveau défiée dans cette Europe qu'il a vue naître. Des populistes sont au pouvoir en Italie. La majorité des pays d'Europe centrale pratiquent des formes d'autoritarisme bien peu démocratiques. Quant au nationalisme, il fait retour partout en Europe, sous des formes parfois très agressives. Et même dans l'archi-démocratique Allemagne, où l'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, est devenue le premier groupe parlementaire de l'opposition. Mais plus grave encore, le rêve kantien d'une humanité pacifiée par le doux commerce et par le droit international que caressait l'Union européenne est en train de se dissiper. Les logiques de puissance sont partout à l'œuvre. Ni les États-Unis de Trump, ni la Chine de Xi Jinping, ni la Russie de Poutine ne sont des puissances postmodernes ayant renoncé à l'usage de la force, bien au contraire. Dans ce contexte, plus rien ne peut être exclu en Europe dans les années à venir, et pas en particulier la réaffirmation par l'Allemagne de ses propres intérêts et de sa puissance. Il pourrait suffire, par exemple, dit Kagan, que l'Italie, ruinée par ses gouvernants actuels, se mette à exiger un renflouement de son économie par les riches Allemands, ou bien que la France, à son tour, confie son destin à un parti populiste.
Eh bien, merci beaucoup, Brice Couturier. On vous retrouve demain, comme d'habitude, en attendant votre chronique à retrouver et à réécouter sur franceculture.fr.